on va passer à notre invitée, Elsa, donc, qui travaille à la Cinémathèque de Tours. Tu es une habituée de cette émission. Depuis plusieurs années, tu viens présenter ce très riche programme qui commence le 21 septembre, c'est la soirée de présentation. Et puis, ça va commencer par ce ciné-concert le lundi 25 septembre à 19h30. On va y revenir. Mais peut-être en première question, avant de dévoiler cette programmation, voilà, encore une fois assez, assez riche, est-ce que tu peux resituer la Cinémathèque par rapport au studio et par rapport à tous les événements culturels qui se passent à Tours en termes de cinéma?
Ok, normalement je peux. Alors tu oui, peux. C'est toujours un défi de présenter en peu de temps toute la programmation, de l'égrener. Mais bon, je vais vous présenter la Cinémathèque. Alors, on est une structure municipale rattachée à la Direction des Affaires de la Culture de la ville de Tours, je le dis quand même. Donc, nous ne sommes pas les studios, mais la plupart de nos séances ont lieu au cinéma studio le lundi à 19h30. On a, en vertu d'un accord artistique, c'est logique qu'on aille au studio, et commercial également. Et on se promène un petit peu aussi parce qu'on noue des partenariats avec d'autres structures, soit d'autres structures municipales, par exemple les collègues des médiathèques, ou d'autres structures culturelles, Jazz à Tours ou Le Petit Faucheux. On noue un peu des partenariats. Mais le plus gros, si je puis dire, de la programmation, c'est les lundis soirs au studio à 19h30. Toute l'info est sur cinémathèque.tour.fr, si vous voulez. Et il y a le programme papier qui est sorti, qui est au studio et qui est dans pas mal de lieux culturels. Et la semaine prochaine, il sera dans plus. Voilà, c'est ça. Et donc, on s'appelle la Cinémathèque Henri Langlois parce qu'au départ, on a été créé par Lionel Tardif et Henri Langlois. Mais on est une structure, donc en tant aussi de structure municipale, on s'occupe de l'accueil des tournages de films et on a un peu les référents cinéma pour la ville. Mais sinon, nous sommes principalement une structure de programmation, une diffusion de films. Et nous sommes une toute petite structure et nous n'avons pas le volet musée du cinéma, restauration de films et tout ça. On travaille avec d'autres cinémathèques qui sont, elles, peut-être plus que nous, des vraies cinémathèques qui nous prêtent des films, qui les sortent de leur tiroir et qui viennent et qu'on montre. Mais voilà, je ne sais pas si ça donne un portrait à peu près.
Et peut-être situer d'ailleurs pour les auditeurs, il n'y a pas beaucoup, énormément de cinémathèques. D'ailleurs, en France, pour une ville comme Tours, c'est quand même assez précieux d'avoir une cinémathèque. Il n'y en a pas.
Oui, alors des municipales, il y en a deux, Nice et nous. Et non, des cinémathèques, il n'y en a pas énormément. Il y en a, je pense, à peine une par région.
Ouais,
mais bon, il y en a quand même.
Mais c'est-à-dire pour une ville à l'échelle de Tours, c'est quand même assez chouette d'avoir cette programmation de patrimoine toutes les semaines. Et qui brasse quand même plein de décennies, plein de cinématographies et plein de discussions différentes. Quoi.
Bah merci, parce qu'on a fêté nos 50 ans l'année dernière et on espère continuer.
Et d'ailleurs, cette programmation, située aussi pour les auditeurs, il y a beaucoup de films de patrimoine qui, parce que maintenant, depuis 10 ans, vous projetez encore un peu en 35 mm, mais le cinéma est passé au numérique. Comment d'ailleurs vos choix, et après on parlera vraiment de cette programmation et de vos choix éditoriaux, mais comment elle s'opère tout au long de l'année au final pour la découverte des films?
Ouais, alors t'as raison, on passe de moins en moins parce que c'est pas un choix, hein, c'est comme ça. Cette année on a que deux copies 35, là par exemple, sur 23-24. Alors les films de patrimoine, c'est quoi? Ça peut être des films des tout débuts du cinéma, ça nous arrive de passer des films de 1897 ou 98. Jusqu'à assez récemment, on considère encore comme du patrimoine jusqu'aux années 80. Et depuis 2-3 ans, de temps en temps, on va jusqu'aux années 2000. Voilà, alors les choix, c'est alors un peu en fonction de... Et alors oui, quand même, ce que je dois dire, c'est qu'on s'attache quand même, on essaye toujours dans chaque programmation d'avoir des choses rares que les gens ne peuvent pas voir ailleurs. Parce que maintenant, les films de patrimoine... au sens où ne sont plus projetés que dans les cinémathèques. Et ça s'est accéléré avec la numérisation. Et donc, pourquoi pas? Et donc, par exemple, notre soirée d'ouverture, là, elle est... je pense que... Enfin, s'il y a des Tourangeaux qui l'ont vue dans une salle de cinéma, il faudra qu'ils viennent me le dire. Voilà, on essaye de trouver quand même des pépites, puisqu'on a un public... On a des jeunes qui ont tout à découvrir et qui sont très contents de découvrir des films, des grands classiques qu'ils n'ont peut-être jamais vus ou jamais sur le grand écran. Mais on a aussi un public, dans notre public, des gens qui connaissent énormément de choses. Et tous les ans, il faut qu'on trouve quand même des choses qu'ils n'ont pas vues, qui les surprennent et tout ça.
Vous arrivez à chaque fois vis-à-vis de ces spectateurs-là?
Oui, il y a toujours 2-3 soirées un peu exceptionnelles, en fait liées à des partenariats souvent, à des partenariats un peu pointus. Et donc, c'est un peu en fonction de nos envies avec Agnès, des cycles qu'on fait, en fonction des partenariats également. On est sollicité par d'autres structures. En fonction, alors c'est un peu idiot à dire comme ça, mais de ce qu'on trouve aussi, parce que on a des envies, mais le film, on ne le trouve pas. En fonction des ressorties, et puis on essaye de raconter une histoire un peu... des fois, l'histoire se poursuit d'une année à l'autre. Enfin, voilà. Alors, on a pas mal de cycles, de grandes thématiques, mais toutes nos séances ne sont pas dans des thématiques. Et je rassure les gens, on ne fait pas une thématique sur l'année. Parce que, par exemple, si on se met à passer que des westerns toute l'année, les gens qui n'ont pas de westerns, on ne va pas les voir beaucoup. Donc, ça se fait un peu comme ça. Et en fait, on découvre des choses, nous aussi, Agnès, ma collègue et moi. Et puis, y a une part aussi de subjectivité dans la programmation, forcément. Ouais.
Donc là, par exemple, si on parle des thématiques et des hommages que vous allez rendre cette année, et l'un des premiers, ça sera un hommage à Douglas Sirk, pardon. Est-ce que tu peux nous parler de moi, je ne les ai pas vus, ces films-là, donc ça va être des découvertes aussi. Il faut savoir, tu parlais de jeune génération, d'essayer d'être curieux et de découvrir des films dont on n'a pas forcément entendu parler avant dans notre cinéphilie.
Douglas Sirk, c'est un grand réalisateur. Quand les gens connaissent Douglas Sirk, souvent, ils connaissent le Douglas Sirk américain. Mmh. C'est ces grands mélos qui sont absolument magnifiques et qu'on aime beaucoup et qu'on n'est pas les seuls, Agnès et moi, à aimer les mélos de Douglas Sirk. Et là, en fait, il y a un distributeur qui nous a contactés tout simplement et qui nous a dit on vient de ressortir les Douglas Sirk de sa période allemande, parce qu'en fait, il était allemand au départ et puis il a été juif. Et à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il est parti à Hollywood, comme d'autres. Et donc, on a regardé ces films, on les a découverts, il y en avait 7, et on a sélectionné ces 3-là. Donc, c'est un hommage à Douglas Sirk, période allemande, ses premiers films. Alors, c'est un peu tarte à la crème à dire, mais on voit déjà que dès ses premiers films, il y a un peu en germe ce que vont devenir ces grands mélodrames plus tard. Mais c'est très intéressant parce que c'est tourné en Allemagne, en Allemagne dans les années 30.
Mm. Ça sera début octobre, le 16. Le 16, 23 et le 23 octobre. Oui. Autre hommage, alors moi je ne connaissais pas du tout ce cinéaste, Carlo Lisani.
Alors
Du coup, au mois de décembre, là, un cinéaste italien.
Oui, alors c'est un petit peu la même histoire. Je t'avouerai que moi non plus, je ne connaissais pas. Et puis, c'est un distributeur, je ne sais plus lequel, mais enfin peu importe, a ressorti ses films. On les a regardés et on s'est dit c'est fou, mais c'est normal. Enfin, j'allais dire, même toi qui es très cinéphile, j'allais dire, ça m'étonne pas que tu connaisses pas Carlo Lizzani. Il était passé sous les radars depuis très longtemps. Donc, sont des films des années fin 50 à 70. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le cinéma. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Rossellini, qui a défendu le cinéma italien public, qui a fait beaucoup, qui était très engagé politiquement. Et puis, il a été oublié. Et là, je crois que c'est. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Capricci qui les ressort. Et on a regardé et on s'est dit, on ne peut pas ne pas faire une ou deux, je ne sais pas, un hommage à Lizzani. Et ce sera en partenariat avec les cinémas studios, d'ailleurs. Donc il y a un film des années 50 qui est très proche du néo-réalisme, La chronique des pauvres amants. Ça se passe à Florence dans les années 20 et c'est une chronique d'un quartier de Florence en pleine montée des chemises brunes, du fascisme et tout ça. Il y a Marcello Mastroianni tout jeune dedans. Et un deuxième film plus dur, mais hyper... alors moi, je l'ai vu en fait à Paris en week-end. Là aussi, un film très politique. Il nous montre dans les années 70 un groupe de jeunes néo-fascistes avec toute la violence que ça comporte et tout. Mais c'est hyper intéressant, quoi. Et c'est fou qu'il ait un peu oublié, mais bon. Il va moins l'être là, il passe un petit peu, il sort ailleurs.
Et c'est vrai qu'on a la chance aussi en France d'avoir les cinémathèques, mais aussi ces distributeurs de films. qui ressortent, qui font ce travail-là d'aller rechercher des films peut-être inconnus ou de niche et de faire un travail de restauration aussi et de leur sorte et de d'avoir un bel écrin pour ces films-là. Il y a des Blu-ray qui ressortent aussi avec des copies restaurées, mais il y en a qui font aussi ce travail de les sortir en salle et c'est pas évident en plus quand on sait que c'est pas forcément sur ces films-là qu'on va faire le plus d'argent non plus, en termes économiques.
Les distributeurs, ou du moins pour nous, certains distributeurs sont nos meilleurs amis.
Ah oui.
mais c'est vrai, il faut un travail extraordinaire. Et puis bon, ces films nous ont particulièrement intéressés parce qu'ils ont beau être le premier de 54, le deuxième de 76, ça fait encore écho aujourd'hui.
Et les copies, oui, sont bien restaurées. Le matériau, du coup, tu les as vus en numérique, ces films-là.
Je les ai vus sur un écran, mais oui, les copies sont belles, elles sont restaurées.
Des fois, les films passés sous radar et repêchés, on peut avoir des fois, oui, le matériau de base est tellement dégradé que la restauration.
C'est chouette, tout à fait aussi, correct. Et donc, ça me fait penser, oui, cette redécouverte comme ça. Parce que là, je n'ai pas le temps de parler de beaucoup de Lizzani, mais ça me fait penser de vous dire que chaque séance de la Cinémathèque, chaque film est présenté de façon courte avant. Et puis après, le film, pour les gens qui souhaitent rester, il y a un débat, discussion. Une discussion qui soit menée par Agnès ou par moi ou par quelqu'un de plus spécialisé qu'on invite. Et là, c'est pas dans le programme parce que c'était pas encore calé, mais il y a Charles Tesson qui va venir en parler. Historien et critique. Il viendra le lundi 4 décembre. Si vous voulez en savoir plus sur Lizzani, venez en plus écouter Charles Tesson. Je pense que ça va être passionnant.
Et dans cette première partie d'année, un film que j'aime beaucoup, d'un cinéaste que j'aime beaucoup aussi, de Peter Yates, 3 milliards d'un coup. Et alors ça, quand je l'ai découvert l'année dernière, ce film, et je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas ressorti en fait avant. Je trouve le film toujours actuel, et toujours prenant. Il se voit très bien encore aujourd'hui, un super film vraiment de gangster et puis autour de malfrats, quoi. Et je vous encourage vraiment, je ne sais pas si tu veux dire 2-3 mots sur le film.
Grand film de braquage, en plus un film anglais, on aime beaucoup le cinéma anglais à la Cinémathèque de Tours. C'est l'histoire d'un hold-up, et c'est vraiment beau, c'est très bien fait. Mais on aime bien Peter Yates, on avait passé Breaking Away il y a 3-4 ans. Et en fait, quand on a vu que celui-ci ressortait, on l'a regardé, puis on s'est dit, parce que moi, j'étais même pas sûre de l'avoir vu avant, je savais plus. Et Agnès, il l'avait vu, on peut dire que c'est une sorte de polar. Un film de braquage sur un hold-up célèbre. Et ça se regarde, on ne voit pas le temps passer.
Même au niveau du montage, pense même pour l'époque, à mon avis, il devait y avoir des prouesses. On est tout le temps dans l'action, les plans ne sont jamais fixes. Dans mon souvenir, je l'ai vu il y a plus d'un an. Mais vraiment un super film, vraiment, qui n'a pas vieilli, je trouve.
Moi, je n'ai pas vu celui-là. Ouais.
Je te remercie. Distraction intelligente.
Un des films que j'ai repéré là, rapidement, le titre me disait quelque chose. Je me disais, attends, j'ai vu ça. Et ça m'est revenu, très très bon souvenir, c'est Tempopo.
Ah oui.
Le film japonais, donc qui est le 9 octobre.
Qui est très bientôt et qui est dans le cadre du festival Arrière-Cuisine aussi, en lien avec l'alimentation.
Je me disais, mais j'ai vu ce film. Et puis tout m'est revenu. Et c'est un excellent souvenir pour moi, ce film. Je l'ai vu il y a vraiment longtemps. Je pense que ça doit faire 20 ans que je l'ai vu. Je ne l'ai jamais revu depuis.
Oui.
Mais dans l'époque où je regardais beaucoup de films japonais, où je cherchais tous les films japonais possibles, celui-ci avait vraiment été dans un des tops des super films que j'avais découverts à l'époque. Et qui est une histoire assez touchante dans mon souvenir.
Oui. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui va chercher la perfection dans la cuisine des ramen. Et puis, il y a tout un truc sur la cuisine et l'érotisme aussi. Oui, c'est assez touchant. Et puis, Juzo Itami, c'est pareil, on en parlera un petit peu. C'est quelqu'un qui est un cinéaste un peu oublié aussi. Et qui est assez intéressant.
Est-ce qu'il y aura une dégustation de ramen à la fin de la séance?
Alors, c'est pas prévu, mais j'aimerais bien. Ça serait bien.
C'est une bonne idée.
Donc, on trouvait que ça allait bien dans le cadre du festival.
Il y a une séance, moi, qui m'intrigue le 6 novembre. C'est le programme de court-métrage de Michael Kobakidze.
Kobakidze, ouais, du cinéma géorgien.
Je ne connais pas du tout. Et quand je dis qu'il y a quelque chose d'universel dans ces films qui évoquent à la fois Buster Keaton et Jacques Tati, ça donne envie de découvrir tout ça.
Oui, viens le découvrir. Tu m'en diras des nouvelles. Et si tu n'aimes pas, tu t'en prendras à moi. Parce que, en fait, j'ai vu ça au Festival de La Rochelle, grand festival de cinéma début juillet. Et c'est du cinéma. Donc, c'est quelqu'un qui n'a fait que des courts-métrages, qui est géorgien. Ça n'a pas été facile pour lui. Alors, les courts-métrages ont des années 60. Le dernier doit être de 2000. Politiquement, ça a été un peu compliqué pour lui de faire du cinéma libre géorgien. Il a eu des problèmes avec le pouvoir, alors qu'en fait, il n'y a rien de didactique. Il ne dit pas, il prêche rien, mais juste un cinéma de poésie et de liberté, poésie visuelle et d'une grande liberté. Et alors, oui, il y a un petit peu de Tati là-dedans. Donc, peut-être le pouvoir a trouvé qu'il y avait un peu de dénonciation, mais c'est difficile, c'est vraiment des ovnis. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ces 6 courts-métrages. Et il y a Anna Kobakidze, sa fille, celui, il est décédé il y a peu de temps, il y a 2 ans, je crois, qui viendra en parler. Sa fille qui parle très bien français et qui, par ailleurs, est comédienne. Ouais, c'est... alors, il y a une spécificité. C'est sans parole, c'est pas sans son, il y a de la musique, mais c'est sans parole. Il enlève les mots, il trouve qu'il n'y a pas besoin. Après, les pitchs, entre guillemets, les histoires, comme ça, il part de situations anodines, parfois quotidiennes, et il en fait une espèce de petit poème cinématographique. Ouais. J'aime beaucoup le dernier, c'est un homme, tout simplement, qui est sur la plage et qui traîne dans un chariot ses affaires. Dit comme ça, oui. Et tout, mais c'est très, très beau. Et il y a de la musique aussi qu'il composait en partie. Il a plein de soucis. C'est qu'il doit y avoir quelque chose de politique quand même dans un cinéma de poétique.
Oui, sûrement. Donc, il avait affaire à... Il faisait autre chose peut-être dans son pays politiquement qui dérangeait. Je crois pas.
Je crois que c'est vraiment ses films parce qu'on montrait pas, parce qu'il montre une espèce de quête du bonheur, quelque chose de léger, et c'était très mal vu.
En tout cas, pour découvrir, c'est le lundi 6 novembre à 19h30, toujours une semaine après, dans le cadre... du 600e anniversaire de la naissance de Louis XI, et j'en profite, je crois qu'elle a toujours lieu l'exposition au château de Langeais, parce qu'il y aura aussi une séance là, mardi prochain au cinéma de Langeais de Notre-Dame de Paris, j'ai perdu le nom du réalisateur, André Hunebelle.
Hunebelle. Ouais.
La semaine prochaine à 20h30. Et là, il y a un autre film, Le Miracle des Loups de Raymond Bernard, donc le lundi 13 novembre. Ouais. Et ça sera présenté aussi par un professeur d'université.
Oui, qui parlera de ça, parce que c'est un grand film de l'époque du muet. C'était vraiment une super production du muet, 1924. C'est très réussi, c'est d'une grande modernité dans la façon de filmer. Et c'est donc en écho au 600e anniversaire de Louis XI. Et c'est un film qui raconte un épisode du travail de Louis XI, de sa conquête du pouvoir et de... Je crois un peu l'unification du territoire. Enfin, il essaie de... Voilà.
Il n'y en a pas beaucoup, des films. Parce qu'on a cherché aussi pour une autre programmation des films sur Louis XI. Il n'y en a pas beaucoup.
Non. Et Raymond Bernard, c'est vraiment... On avait passé Les Misérables il y a quelques années de lui, là, en trois soirées. Bon, c'est un grand... Les Croix de Bois, c'est lui aussi, ouais. Grand nom du muet. Et donc, mais tu l'as dit que ça serait présenté par François-Olivier Toiti,
professeur...
qui est un universitaire qui explique très très bien, qui est passionnant, qui racontera plein de choses. Non, mais c'est vrai, je le pense.
Non, mais c'est bien qu'effectivement, comme tu disais, que les soirées soient présentées par des personnes qui aiment beaucoup les films qu'ils présentent, et ça transmet vraiment, avant de voir un film, des portes d'entrée pour peut-être mieux apprécier le film que s'il n'y avait pas eu de présentation. Donc c'est toujours mieux.
C'est ça. Puis lui, il va parler aussi, je pense, de l'aspect historique. Et moi, je vais apprendre des choses. J'avoue.
Et toujours dans cette première partie de saison, parce qu'on ne va pas peut-être tout parler, mais il y a John Cassavetes, aussi grand nom du cinéma américain, et la soirée sera présentée par Thomas Anctin, qu'on salue, parce qu'il fait l'émission bande-annonce sur Radio Béton. John Cassavetes sur grand écran, Peter Falk, généralement.
Voilà, donc Une femme sous influence, son film sans doute le plus emblématique. Et donc, comme on parle de Thomas Anctin, Thomas Anctin, j'en profite, ça me fait penser de vous dire, dans nos missions, entre autres, Thomas Anctin est professeur de cinéma au lycée Balzac et on noue des partenariats avec certains établissements scolaires dont ce lycée. Et Thomas présente, il fait plein de choses, je ne sais pas comment il fait, nous présente des films de temps en temps. Et avec sa classe de première, il nous et dans le cadre du partenariat avec les scolaires, là, l'aspect école, transmission, hein, le 18, je crois que c'est le 18 décembre, les c'est élèves ça. De la classe de première de l'option cinéma présenteront Le Faux Coupable d'Hitchcock. Donc ce sera une belle soirée aussi. Et oui, Thomas aime beaucoup Cassavetes et même il fait un travail universitaire sur Cassavetes. Ah oui. Et on passe à un autre Cassavetes, Opening Night, plus tard dans la saison. J'aime énormément ce film aussi. On retrouve évidemment Gennaro Lanz, mais là, il y a aussi Cassavetes lui-même dedans. À la médiathèque François Mitterrand, avec laquelle on aime bien, on travaille depuis plusieurs années, dans le cadre d'un partenariat qui, cette année, s'appelle Jeux d'actrices, c'est-à-dire ces trois films qui ne sont pas vraiment des remakes ou des suites les uns les autres, mais qui abordent un peu le même thème, enfin, qui sont sous influence. C'est des films sous influence, finalement. Ève de Mankiewicz, absolument magnifique. Puis là, comme il y avait l'hommage à Bette Davis à La Rochelle, oui. Je l'ai revue. Bon,
ah, je l'ai pas revue, mais j'en ai vu d'autres même, de Bette Davis. C'est,
ouais, ouais, je ne saurais pas répondre à ta question sur ce qu'on a envie de revoir au cinéma, qui aurait pas, mais je pense qu'il y a. Enfin, moi, je veux revoir des films comme Ève, en fait. Opening Night et puis Almodovar, Tout sur ma mère, qui est aussi une. Plus qu'un clin d'œil, une citation, hommage à ces films. Voilà, j'aime assez ce petit cycle.
Et avant qu'on continue à parler de quelques films, même si on ne pourra pas tout parler, je propose une coupure musicale. On parlait de la médiathèque François Mitterrand, mais vous faites aussi des séances jeune public, plutôt à la salle Jacques Villeret. Oui. Et un film que j'aime beaucoup de Jean-François Laguioni, Le Tableau. Oui. Et je vous propose qu'on s'écoute une musique de Pascal Le Pennec qui signe la BO du tableau. Thank you.
les jeudis soirs sur Radio Campus Tours. Plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle. Plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. Mais c'était... Pardon. Merde, excuse-moi. J'ai merdé.
Toujours ce magnifique jingle d'Edouard Baird sur Radio Campus. Incroyable. Tour. On n'a pas eu celui d'Albert Dupontel il y a 10 jours. Alors voilà, on repasse celui d'Edouard Baird, on ne s'en lasse pas. Toujours avec Elsa de la Cinémathèque pour nous parler de cette nouvelle saison qui commence tout bientôt, hein, le lundi 25 septembre à 19h30. D'ailleurs, on peut parler peut-être de cette soirée d'ouverture parce que c'est un ciné-concert en écho. Avec la Coupe du Monde de rugby.
Oui, on fait un clin d'œil au rugbyman, donc en écho à, comme tu dis.
Vous aurez l'équipe d'Irlande ou pas?
Alors, ils sont tout à fait les bienvenus. Hein. Ils sont tout... voilà.
Je ne sais pas s'il y a un match aussi au même moment. Mais...
ça serait bien. Non, mais ça, c'est un film qui vient tout juste d'être restauré par le CNC. Donc, il y aura Béatrice de Passe du CNC, directrice des collections, qui viendra le présenter. C'est un film de 1928, mis en musique, en ciné-concert par un jeune musicien, Johan Percival. Et c'est un film d'André Hugon qui s'appelle La Grande Passion. Alors en fait, il y a deux passions dans l'histoire. Il y a surtout la passion du rugby. Donc les gens qui aiment le rugby, qui ont une culture du rugby, qui aiment ça. On voit dans le film, le capitaine, c'est Adolphe Géroghi, grand rugbyman de l'époque, assez connu pour les gens qui aiment le rugby. Et ça a été écrit par le premier, le scénario est écrit par le premier président de la Fédération française du rugby. Et donc il y a là-dessus se greffe une histoire d'amour et donc un joueur qui va se retrouver un peu tiraillé parce qu'en fait il faut qu'il continue à bien jouer au rugby mais il est tiraillé par une histoire d'amour un peu compliquée. Mais aussi surtout ce qui est intéressant c'est que c'est un film tout à fait novateur dans la façon de filmer le sport et notamment particulièrement le rugby. Et par exemple il y a des plans de mêlée qui sont tout à fait étonnants et qui sont plutôt mieux faits, enfin plus intéressants, plus osés, mais bon c'était une fiction. Que quand on voit le rugby à la télé aujourd'hui.
Et donc c'est le 25 septembre, mais ça sera, je vois, à l'espace Joséphine Baker, à la chapelle du Conservatoire.
En fait, ouais, en face des studios, la porte juste en face, on sera là-bas. Ouais,
ça marche.
Pour des raisons techniques.
Et tout à l'heure, là, on a passé une musique du tableau de Jean-François Laguioni. Il y a aussi toute une thématique autour de la peinture et du cinéma, pas que pour les enfants, mais aussi pour le grand public. Et ça sera plutôt dans la deuxième partie de saison, notamment. Vous avez tout un cycle autour de la peinture et du cinéma.
Oui.
Avec,
avec des choses très différentes. Oui, par exemple, Edouard Munch de Peter Watkins. Alors, je veux pas. Enfin, moi, j'adore ce film, mais c'est comme un biopic sur Edvard Munch, mais c'est Peter Watkins. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Peter Watkins, c'est pas un biopic classique, forcément. Voilà. Et puis, Le Van Gogh de Piala, on s'est dit, on ne pouvait pas ne pas le repasser. Enfin, un classique, moi, j'aime beaucoup ce film. Le portrait. Donc, il y a des portraits. Enfin, on va retrouver des histoires de peintres, mais aussi après des histoires, par exemple, le portrait de Dorian Gray. Qui en plus fait un petit lien après vers un petit cycle qu'on a sur Faust au cinéma. Bon voilà, on a La main du diable aussi de Maurice Tourneur, qui est aussi un petit peu en lien avec notre cycle Faust.
Et je voudrais bien qu'on parle peut-être de deux dernières choses, parce qu'on pourra en parler plus, encore toute l'heure d'ailleurs de cette programmation. Mais il y a un film.
Court, hein.
Ouais. Non, mais on va donner l'envie aussi aux auditeurs d'aller sur votre site internet notamment pour regarder toute la programmation.
Et ils peuvent aussi, s'ils ont rien de mieux à faire, venir jeudi à Saloque Game à la présentation de saison. On prendra un peu plus le temps et c'est ponctué d'extraits.
Et bah, juste après notre émission, c'est à quelle heure? C'est à partir de quelle heure?
C'est à partir de 19h.
Et donc vous pouvez nous écouter quand même pendant où on vous autorise à aller à la présentation et vous nous écoutez en rediffusion évidemment le
podcast.
Le samedi, en podcast, oui. Et je voulais. C'est Nothing But a Man de Michael Houmer.
Alors, je crois qu'on dit Rohmer.
Ça m'intrigue vraiment et c'est plus tard, c'est le lundi 18 mars, hein, c'est pas tout de suite, mais ça a l'air d'être une découverte assez étonnante là.
Cet homme a fait, je crois, 5 films quasi autoproduits tous et ces films sont complètement fous. C'est les années 60. C'est la contre-culture américaine. Ah. Il est passé, mais en fait, ces films n'ont même pas été distribués, sont pas sortis quand il les a faits.
Et là, qui a été redécouvert.
Alors là, qui le ressort? Je ne sais plus, je ne voudrais pas confondre, j'hésite entre deux.
Non, je trouve ça étonnant qu'on ressorte ces films-là, vraiment, qui
disparaissent
des radars. Quoi.
Mais oui, et c'est un film qui parle de la ségrégation, de la situation faite aux Afro-Américains à l'époque. Et c'est un film d'une force visuelle, mais incroyable. Dès le générique d'ouverture, il est absolument incroyable. C'est un noir et blanc très, très beau, une BO de fou. Il y a Abbey Lincoln, la chanteuse, pour ceux qui la connaissent, qui joue un rôle. Et c'est le portrait d'un... On suit la vie difficile donc d'un noir américain qui, en fait, est le seul, finalement, dans ce système à hausser le ton, à oser se défendre un petit peu et va se retrouver en but non seulement vis-à-vis de la communauté blanche, mais également de sa propre communauté, oui. Si je puis parler comme ça. Enfin, par exemple, il va tomber amoureux, il va épouser une institutrice qui est la fille d'un pasteur noir et tout, et qui va... Ça va être très compliqué pour lui. C'est un ouvrier, c'est aussi un film sur la vie des ouvriers de l'époque. Le premier plan, ça commence, on le voit, il est sur les... Il travaille sur les rails. Il est sur les... Non, c'est un ouvrier du train.
Ah, ok, ferroviaire.
Très mal, pardon. Enfin, il plante les rails des États-Unis. Mais voilà.
Et je voulais qu'on... Alors, c'est une soirée où on ne sait pas encore le film, mais vous faites aussi... Vous disiez, voilà, il y a les lycéens du lycée Balzac qui viendront présenter une séance dans le cadre de leurs études. Mais il y a aussi un ciné-concert qui est préparé par les élèves de l'école jazz à Tours.
Oui.
Et
alors ça, je pense que ce sera très certainement une restitution de masterclass, mais ce n'est pas encore complètement calé avec Jazz à Tours, mais... Dès que ce le sera, voilà, parce qu'il fallait que Jazz à Tours, de son côté, voit avec qui faire la masterclass, tout ça, le film. Mais oui, on a déjà travaillé avec Jazz à Tours et avec des élèves de Jazz à Tours et on a beaucoup aimé, c'était enrichissant, je pense.
Et donc, on pourrait, voilà, il y aura aussi des hommages à James Gray, à Sacha Guitry, enfin voilà, il y a une programmation, encore une fois, on vous encourage à aller sur le site de la Cinémathèque de Tours et on vous mettra tout ça dans le podcast de l'émission.
Oui, ben bah voilà, James Gray, là, on va dans le plus, c'est le plus récent, quoi.
Avec des films, bah ouais, tout. Et c'est là qu'on s'aperçoit, en voyant Two Lovers, que... Effectivement, c'est des films qu'on a maintenant vus en salle à l'époque.
Moi, c'était La nuit nous appartient que j'avais vu en salle, que j'avais beaucoup aimé.
Oui, mais oui.
Et vous finirez par un film Mon nom et personne.
Oui.
Sublime western.
Bah oui, parodique, mais très réussi en fait. Parodique, mais très très bon et une très bonne distraction. Oui, voilà. Et puis il y aura Bart Colery, le distributeur, qui sera là.
Ah, ce film.
Et il y aura un quiz à la fin, un quiz sur les musiques de Morricone. Bon, voilà, mais c'est le 10 juin, on a le temps d'en reparler.
C'est un de mes westerns préférés. C'est le film de mon enfance, moi.
Mais oui,
tellement je l'ai regardé en boucle.
Voilà.
Je vais vous passer une autre musique.
J'espère qu'ils ont refait les sous-titres parce qu'il y a un Blu-ray qui était sorti il y a quelques années du film où les sous-titres sont catastrophiques. C'est pas calé. En fait, j'ai l'impression que c'est la VO qui a été traduite par Google et qui a été collée sur le film comme ça. Et c'est horrible à regarder.
Non, bah écoute, là, je l'ai revu à La Rochelle, lui aussi, bon. Début juillet. C'était bon.
Je pense qu'ils s'en sont aperçus.
Jacques Beauregard avait bien les paroles bien calées, le bon texte.
Donc, pour retrouver toutes les infos sur les tarifs, parce que les étudiants, si vous êtes abonné en plus au cinéma studio, bah c'est moins cher. C'est bien 6 euros, hein, c'est ça, cette année.
Le tarif étudiant, oui. Mais sinon, de toute façon, j'encourage tous les étudiants à prendre le passeport culturel étudiant.
Tu fais bien.
Je sais plus, enfin, parce que ça leur, pour moins de 10 euros, ça leur donne accès à plein de tarifs réduits dans quasiment toutes les structures culturelles, enfin, ou des offres intéressantes de la ville.
Et
nous,
c'est
3 euros. Ouais. On casse le prix quand même.
Et 5 euros pour deux films. Donc, vraiment, ça vaut le coup de prendre le passeport.
Et en
culturel.
Plus, abonnement offert au studio avec le PC.
En plus,
j'ai ma fille qui vient de le prendre. Donc, voilà. Et 3 euros pour être sur la Cinémathèque.
On va peut-être devenir étudiant, redevenir.
Inscris-toi à la fac pour avoir le PCE.
C'est ça, je vais faire ça.
Et ben, on va finir par la musique, une musique des Morricone. Mon nom est personne. Allez, c'est parti.
Merci
à toi.
Émission.
Ah non, ça c'était le générique d'Edouard Baird. C'était pas prévu. Mais il y avait bien un petit souci technique dans l'émission à un moment donné. Allez, c'est parti.
Ah.
de retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, pour votre émission Plan Séquence. Et maintenant...